Bonjour frère François Bustillo.
Bonjour.
Vous êtes le délégué diocésain à la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Avec vous aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qui a été fait dans le diocèse de Tarbes et Lourdes contre les abus dans l'église. Vous êtes nommé depuis 2018 et depuis 2018, vous avez mené pas mal d'actions. Alors, pas tout seul, avec une équipe autour de notre évêque, Monseigneur Nicolas Brouvet, pour que l'Église et l'Église diocésaine soient une maison sûre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un point, en quelque sorte, de toutes les actions que vous avez menées, que vous êtes en train de mener pour combattre les abus dans l'Église ?
Oui, effectivement, les évêques de France, lors de la dernière rencontre, ils ont dit que la maison Église n'a pas toujours été sûr. Et justement, Mgr Brouvet, il m'a nommé en 2018, en novembre 2018, pour me dire, voilà, il faut s'occuper de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Moi, je trouve que déjà le fait de nommer une personne, un prêtre, pour cette émission, c'est déjà un pas extrêmement important. Ensuite, j'ai une commission autour de moi, je ne suis pas seul. Donc, on accompagne les situations ensemble, parce qu'il nous faut un discernement collectif. Mmh. Le sujet est tellement grave, délicat et complexe qu'il nous faut un discernement collectif. C'est pour ça que nous avons des médecins, nous avons des mamans, nous avons des juristes. Il est important que nous puissions être le plus juste possible. Alors, depuis ma nomination, nous avons créé une charte pour le diocèse, pour les sanctuaires de Lourdes, et nous avons essayé de créer une mentalité dans le diocèse pour protéger les mineurs, les personnes vulnérables. C'est pour cela que nous avons fait des formations pour tous ceux qui ont des responsabilités, prêtres, religieux, confesseurs, et laïcs, à l'aumônerie, au catéchisme, à la pastorale sociale, pastorale de la santé, l'enseignement catholique. Je suis allé un peu partout pour pouvoir parler, dire comment l'Église de notre diocèse essaie de protéger les mineurs. Alors, évidemment, au début, j'ai découvert moi aussi ma mission, j'étais nommé, le cahier des charges n'était pas très clair, donc petit à petit, on s'est formé, et ce qui nous a semblé important, c'est de nous donner un code déontologique de respect des personnes. Et c'est là que nous avons commencé à travailler, d'abord avec la charte, ça nous a pris du temps, pour donner des orientations concrètes et claires, et ensuite, à travers la disponibilité. Une de mes missions, c'est d'être à l'écoute. Mmh. Il y a un portable, il y a une adresse mail. S'il y a un souci, un problème, moi, je dois être disponible à 100% avec mon équipe pour écouter, conseiller et orienter les personnes en fonction de ce qu'ils me disent.
Comment votre mission a-t-elle été perçue ? Alors, dans tous ces lieux-là que vous venez de nommer, où vous êtes allé pour sensibiliser, pour poser des mots sur ces abus, ce qui n'était pas fait auparavant, comment ça a été perçu, ça ? Est-ce que la collaboration a pu se lier rapidement ?
Moi, je pense qu'il est important, et je l'ai vu. Alors, au début, quand on dit délégué épiscopal à la protection des mineurs, des personnes vulnérables, en plus de monsieur franciscain, ça fait un peu inquisiteur, quelqu'un qui vient pour contrôler, pour quelqu'un qui fait peur, en fait. Mais le but n'est pas de faire peur aux personnes, mais d'inviter à la vigilance, à la prudence et à la responsabilité pour que notre maison église soit sûre. Alors, au début, dans certains milieux, il y a une certaine méfiance, voire distance. Mmh. Et parce qu'ils ont dit, mais on n'a pas besoin de ça, qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il va nous interdire de faire de mouvements, de rencontrer les gens ? Alors, il y a un certain flou par rapport à ma mission dans l'Église. Ensuite, le fait de rencontrer les personnes, le fait de parler, d'ajouter des mots, de dire clairement, concrètement, et d'une manière présentielle, comme on dit aujourd'hui, ce que je dois faire, ça a rassuré. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour dire attention ici, attention là, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On est là pour dire, voilà, veillons pour que les enfants qui nous sont confiés, au catéchisme, à l'aumônerie, partout, qu'ils soient à l'aise, que les parents soient rassurés.
Ça veut dire une évolution. Ça veut dire des gestes à ne pas faire et des mots à ne pas dire, des paroles à ne pas employer avec des mineurs.
Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, on a fait un rappel du bon sens
du bon
naturel
sens.
Et social. Voilà. Parce que effectivement, on va pas dire, il faut pas frapper les enfants. Bon, ça se fait pas. Donc, si vous voulez, le fait d'écrire une charte et de rencontrer les personnes, c'était pour renforcer le bon sens naturel. Il y a des comportements dans la vie sociale, mais surtout dans la vie de l'Église, qui doivent être bienveillants. Nous devons développer la pastorale de la bientraitance, comme on nous le dit souvent à la conférence épiscopale, et pas la violence. On vit déjà dans une société extrêmement violente, d'un point de vue physique, d'un point de vue verbal, on le voit par un tweet, par un mot, on est extrêmement violent. L'Église doit se dissocier d'une mentalité violente et agressive pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je dis souvent, quand je présentais la charte, n'oublions pas que la charte était moyen, pas une finalité. Mmh. La finalité, c'est que nous vivions notre foi dans la paix et dans la joie. Mmh. Après, on se donne quelques moyens importants, disciplinaires, certes, pour que la bonne nouvelle soit vécue, annoncée.
Alors, on entend bien cette charte signée par toutes les personnes qui sont en mission dans l'Église, et en particulier auprès des jeunes ou des personnes vulnérables. C'est un premier pas, ça c'est votre mission d'accompagnement, de sensibilisation, mais il y a aussi toute la part d'accompagnement des victimes. Ça c'est un autre pan très important de votre mission.
Oui. Mais en fait, les évêques de France l'ont dit. Il y a eu une prise de conscience depuis les années 2000-2016 de la place du traumatisme des victimes. Alors avant, on disait où il y a un type qui est un peu étrange, où il y a des comportements un peu bizarres, mais on se limitait à constater. Une fois qu'on a écouté les victimes, là, on s'est rendu compte des dégâts. Il y a eu des souffrances incroyables chez les personnes, de tentatives de suicide, de vie affective complètement déréglée. Alors, on a pris conscience des douleurs. Comme je le dis souvent, les hommes du sacré ont massacré des vies. Mmh. Et alors, les victimes, écouter les victimes signifie prendre conscience du mal qu'ils ont reçu des personnes de l'Église. Donc, face à ce mal, on ne peut pas rester indifférent, impassible et insensible. Donc, il faut agir, il faut réagir d'une manière responsable, d'une manière évangélique.
Peut-être qu'il est bon de rappeler, on emploie le mot abus depuis le début de notre conversation, frère Bustillo, peut-être que c'est bon de rappeler ce qui se cache derrière ce mot abus. On ne parle pas seulement d'agression sexuelle, on ne parle pas non plus seulement d'agression sur des enfants et des jeunes. Il y a aussi des abus psychologiques, des abus de pouvoir, y compris sur des personnes vulnérables. Peut-être que c'est important de rappeler quand même ce qu'il y a derrière ce mot abus.
Effectivement, vous voyez, dans notre charte du diocèse et du sanctuaire de Lourdes, nous avons mis par écrit les types d'abus qu'il y a selon le droit français, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'abus sexuels. Et c'est gravissime parce qu'on touche à l'intimité et à la dignité de la personne. Mais à l'origine, le pape l'a rappelé d'une manière assez, bon, avec son style, très, très clair, et pas très diplomate, mais avec beaucoup de justesse. Il a dit quand même que tout commence quand même par un abus de pouvoir. Et quand on est des hommes d'église, des prêtres, il peut y avoir aussi un abus spirituel. C'est-à-dire qu'on profite d'une situation, d'un statut
d'autorité
ecclésiale pour manipuler, dominer, séduire. Et donc, il est important quand même d'être vigilant, parce que l'abus sexuel peut être une conséquence d'un profit ou du profit d'un abus de domination. Donc, nous devons être extrêmement attentifs dans le domaine de notre responsabilité. Nous ne pouvons pas profiter de notre statut ecclésial d'autorité pour se servir des autres.
Et comment
nous sommes
travaille
au service des gens. Nous ne pouvons pas nous servir des autres.
Comment on travaille ça, justement? Comment on fait en sorte que ça n'arrive pas, cet abus de pouvoir au début?
Moi, je pense qu'il faut prendre conscience d'un point de vue spirituel, intellectuel et humain de notre identité de prêtre. On commence par notre vocation et par notre identité. Nous sommes les hommes de Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu, non pas pour prendre des vies, mais pour donner notre vie. Donc, quand il y a des comportements un peu étranges ou des comportements carrément délictueux ou criminels, ce qu'on s'est détourné de notre vocation initiale. Alors, la mémoire de notre vocation nous rappelle qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. Nous vivons le temps pascal, nous devons relever les vies, pas écraser les vies.
Donc, c'est une question de formation des prêtres ?
Les évêques de France l'ont dit très bien. Et dans leur décision, dans leur lettre, là où on parle des décisions qu'ils ont prises, de soigner la formation initiale et continue. Parce que c'est là, les prêtres d'aujourd'hui et les prêtres de demain, il faut qu'il y ait la formation intellectuelle, bien sûr, la formation pastorale, bien sûr, la formation spirituelle, bien sûr, mais la formation humaine. Mmh. Nous avons un corps, une vie relationnelle, comment on soigne, comment on travaille aussi notre humanité, notre disponibilité.
Vous évoquez cette lettre des évêques, hein, datée du 25 mars dernier, lorsqu'ils étaient réunis en assemblée plénière ici à Lourdes. Comment vous l'avez reçue, cette lettre ? Alors, c'est une lettre dans laquelle ils présentent toute une série de décisions. Hein, vous venez d'en parler, mais il y a d'autres décisions. Il n'y a pas seulement la formation des prêtres, il y a aussi une grande partie sur l'accompagnement des victimes. Qu'est-ce qu'on fait pour aider, pour réparer, en quelque sorte, même si là, on peut... Peut-être pas parler de réparation totale, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider les victimes, pour les accompagner ? Et puis, il y a tout un travail de mémoire aussi qui est en question. Comment vous avez reçu, perçu cette lettre ?
Alors, d'abord, j'ai reçu la lettre comme une continuité de l'épiscopat français, une fois qu'ils ont pris conscience des douleurs des victimes et des dégâts liés au problème de mœurs. Je l'ai reçu comme une continuité, comme une responsabilité et comme une logique aussi de réparation. On ne peut pas se limiter à constater qu'il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait des propositions concrètes sur ce qu'ils ont fait pour dire, voilà, à partir de maintenant, puisque nous sommes conscients des douleurs de victimes, des dégâts que certains comportements ont causés dans la vie des personnes, nous devons agir et réagir. Et moi, je trouvais que c'était dans la continuité. Et quelque part, ils ont donné un message fort à l'Église, parce qu'il faut former l'Église d'abord, la famille à l'intérieur, mais aussi à la société, dans laquelle les évêques ont dit, écoutez, nous ne pouvons pas tolérer des comportements pareils. Donc ils ont dit clairement, il était important de le dire, que dans l'Église catholique, nous ne pouvons pas accepter des comportements criminels concernant les mineurs et les personnes vulnérables. Donc, ils l'ont dit clairement. Moi, j'ai vu une continuité. Et ce n'était pas à écrire une jolie lettre. Il y a des décisions.
Maintenant, il faudra les concrétiser. Alors, dans l'Église et puis dans chaque diocèse.
Oui, mais finalement, le fait de décider, c'est déjà un signe de responsabilité. Donc, on ne restait pas dans la théorie, dans le monde des idées, comme dirait Platon, mais on descend. Voilà, il y a des décisions. Nous, les évêques, nous avons décidé. Et donc, après, évidemment... c'est dans le local qu'il faut vivre. Nous, dans le local, on travaille, dans notre diocèse, on travaille pour éviter des souffrances évitables, pour former et pour accompagner. Donc après, c'est à chaque diocèse, à chaque évêque aussi, de voir comment concrètement dans son diocèse va vivre et appliquer ses principes.
Il y aura en somme un avant et un après lettre du 25 mars des évêques de France. Alors peut-être c'est un peu tôt, mais concrètement, comment vous envisagez de mettre en place ces décisions des évêques dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes ?
Finalement, nous sommes déjà...
Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, oui.
Voilà, nous sommes déjà dans un mouvement qui est encourageant et stimulant. Parce que nous avons déjà commencé un travail qui est un peu dans cette ligne. Donc, nous continuerons à faire ce que les évêques ont décidé et à l'appliquer ici. Et il est important quand même de sortir toutes les antennes pour voir un peu ce qui se fait chez nous et autour de nous. Et pour pouvoir, le but est toujours le même, je le répète, pour dire, voilà, dans l'Église, dans la mission de l'Église, il est important que les personnes soient bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient protégés et qu'ils soient formés. Nous devons transmettre la bonne nouvelle des biens spirituels. Donc nous devons éviter tout ce qui s'éloigne d'un comportement délictueux. Voilà, ça c'est basique.
Le 3 juin prochain, il y aura une rencontre alors organisée par vous en tant que délégué diocésain à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, avec Monseigneur Brouvet, avec aussi plusieurs associations et plusieurs entités, une journée pour parler, pour sensibiliser, pour former les acteurs de la pastorale des jeunes, mais pas seulement, sur cette question d'abus, de prévention, surtout des abus. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette journée du 3 juin ?
Voilà, nous sommes en train d'organiser. Donc, dès que la journée sera prête et tous les intervenants seront d'accord, nous pourrons faire la publicité pour l'annoncer aux prêtres, aux diacres et aux laïcs, à tous ceux qui ont des responsabilités pastorales dans l'Église. Pourquoi cette journée ? Il nous a semblé important de sortir un peu de notre milieu ecclésial, et d'écouter aussi comment d'autres, dans le monde civil, vivent, accompagnent, forment, gèrent aussi des situations difficiles. Alors, il nous a semblé important d'écouter, certes, notre évêque, parce qu'il va nous dire un peu comment les évêques de France avancent, mais d'écouter aussi le procureur, d'écouter d'autres associations pour dire comment, dans le local, donc chez nous, dans notre diocèse, dans notre département, on travaille pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Alors, nous, l'Église, on le fait dans notre milieu ecclésial. Il nous a semblé important d'élargir l'horizon et voir comment d'autres, dans le milieu civil, le font. Parce que finalement, nous devons travailler ensemble pour un même but, pour le bien des personnes.
Vous écouterez à cette occasion aussi des victimes, vous ?
Non, pas cette fois-ci. On a l'idée. Alors, en fait, si vous voulez, on commence un chemin. Ce n'est pas une journée, et après, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire. On commence un itinéraire dans lequel il y aura... On commence par écouter ceux qui ont les responsabilités. Après, on écoutera des victimes une autre fois. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on veut faire tout en une demi-journée, une journée. On veut commencer un itinéraire dans lequel nous, en tant que responsables, nous disons, voilà ce que nous voulons. Et alors, pour ne pas oublier, parce qu'on peut faire un moment extraordinaire, le 3 juin, de feu d'artifice, tout le monde est au courant, et après, c'est fini. Non, il faut que ce moment soit un commencement, ensuite qu'on puisse continuer, qu'on puisse écouter aussi des victimes, pour que nous tous, qui sommes dans l'Église, nous soyons responsabilisés, sensibilisés, et aux douleurs qui causent quand même tous ces traumatismes liés à l'abus, et à l'abus de pouvoir, à l'abus spirituel et à l'abus sexuel.
Merci beaucoup, frère François Bustillo. J'indique l'adresse mail pour joindre la cellule d'écoute des victimes, paroledevictime@gmail.com, paroledevictime@gmail.com. Voilà, pour joindre la cellule d'écoute. Merci beaucoup.
Merci.